France Culture.
À la recherche d'Eva Kotchevert.
How was Wachover?
Un documentaire de Clémence Alzard et Anne Fleury.
When I started the research from my grandfather, we only knew Havas Lochover or Havche, it's like nickname. But others' names, like later that we knew Eve Adams, Evelyn Adams in New York in the US.
Chava.
Chava is the name from the Bible of Eve.
Eve Adams, Evelyn Adams.
Eve Adams.
Une Eve Adam androgyne.
A little bit of Eve and a little bit of Adam.
Eva, Eve, Evelyn, autant de noms qu'il faut pour être libre.
Je l'ai d'abord rencontrée dans le livre de Chauncé où elle apparaît, Eve Adams.
Quant à Kotchevert, déjà il est dans le livre de George Chauncey, Gay New York. J'ai demandé à Chauncey comment c'est apparu. Sur une pochette des archives, il a vu ce cas. Alors ce cas, est-ce que c'est erreur de lecture? Parce que son nom, Zwatchever, c'est un Z et un L barré. Quand ils sont ensemble collés, ça peut donner un K. Alors, est-ce qu'il a mal lu? Est-ce que ça a été l'erreur de l'administrateur? Mystère, mais tant mieux. Ça convient aussi à une part de son mystère.
La première fois que j'entends son nom, elle s'appelle Eva Kotchever. C'est sous cette identité qu'elle n'a vraisemblablement jamais utilisée que nous la connaissons, si on la connaît. C'est mon amie, l'activiste et passeuse d'histoire lesbienne, Suzette Robichon, qui le prononce. Dans les années 20, elle écrit un livre, Lesbian Love. Elle a eu 4 ou 5 identités. Vendeuse de journaux, ouvrière, serveuse, libraire à la sauvette, gouvernante. Elle parle 6 langues. Alors yiddish, russe, polonais et peut-être allemand et français. Elle est née en 1891. Elle est migre en 1911 ou 1912. Aux États-Unis, elle vend The Liberator, Good Morning. Le FBI fouille sa chambre d'hôtel à 2 reprises. Elle est arrêtée à New York, à Nice. Elle ouvre 2 salons de thé dans des quartiers bohèmes. The Grey Cottage à Chicago, avec sa compagne d'alors, une peintre impressionniste, Ruth Norlander. Le Eve's Hangout à Greenwich Village. L'histoire me parvient et parvient ainsi à quiconque se penche dessus. En vrac, par bribes et dans le désordre. Il faut composer avec les silences et oser imaginer parfois.
Bonjour, rentrez donc, asseyez-vous, restez debout, je ne sais pas.
Suzette Robichon m'a transmis la passion et la nécessité de la raconter. Cette quête sur les traces d'Eva Kotchevert, c'est d'abord la sienne.
C'est-à-dire que c'est le livre de George Chauncey, Gay New York, dans lequel j'ai trouvé un paragraphe qui m'a particulièrement passionnée. Je peux lire quelques phrases. C'est un livre sur le gay New York, 1890-1940. Dans les années 1920, plusieurs bars clandestins y étaient tenus par des lesbiennes. La plus connue de ces propriétaires lesbiennes était Eva Kotchevert, une juive polonaise émigrée qui se faisait appeler Eve Adams, avec 2 D, orthographiée parfois Adams, avec seulement 1 D. Un pseudonyme androgyne dont l'origine biblique fut peut-être considérée comme blasphématoire par ses persécuteurs protestants. Désignée comme la reine du troisième sexe dans un journal et comme une femme qui déteste les hommes dans un autre, elle ouvrit, après la vague répressive de 1925, un salon de thé au 129 de McDougall Street qui devint vite un endroit très fréquenté après la sortie des spectacles. Un panneau sur la porte indiquait que les hommes sont acceptés mais pas souhaités. Ce qui s'avère être faux, d'ailleurs. Donc ça suffisait largement pour éveiller, plus que la curiosité, la passion de savoir plus. Je pense l'avoir lu environ en 2016. Je ne suis pas historienne, et en 2016, il y a Internet, donc bêtement, machinalement, j'ai tapé. Et j'ai contacté mes amies historiennes, en particulier Claudia Schopmann, qui est une des premières historiennes allemandes à avoir travaillé sur la question des lesbiennes et de la déportation, qui m'a dit non, je n'ai jamais entendu parler. J'ai contacté aussi en deuxième ou en premier, je ne sais plus exactement, Deborah Edel, une des fondatrices des archives lesbiennes de New York, qui m'a dit non, je n'ai jamais entendu parler. Là, le mystère s'épaississait. J'ai ensuite contacté mon amie Anna Hachkova, qui est une historienne tchèque-britannique qui est spécialiste effectivement aussi des queers et de l'Holocauste. qui n'avait pas tellement entendu parler, mais qui m'a été d'une utilité extrême, parce qu'au fur et à mesure, j'ai commencé à ramasser d'autres informations, à savoir qu'elle avait un neveu, un petit-neveu à Tel Aviv. Donc en deux temps, trois mouvements, même pas une heure, elle m'a envoyé les coordonnées du petit-neveu, Eran Zahavi, auquel j'ai écrit. Et c'est comme ça que tout a s'est emballé et a commencé. Voilà.
My name, yes, is Eran Zahavi. Zahavi is the name.
Je m'appelle Eran Zahavi. Zahavi, c'est le nom de mon grand-père qui a émigré en Israël en 1931. Yerachmiel Zlotchever, c'est le nom d'origine de mon grand-père. Zloty signifie en or en polonais. Zahav en hébreu.
So he changed the name from
Donc il a changé son nom de Zlotchever à Zahavi.
My grandfather, oldest sister,
et l'aîné de mon grand-père, c'est Chava Zlotchever. Il était le cadet d'une fratrie de sept. Chava était l'aîné. Elle avait, je crois, 15 ans de plus que lui. Il était le bébé dont elle s'occupait. Il l'aimait beaucoup. Il parlait tout le temps d'elle. Il l'adorait.
Est-ce que vous vous souvenez précisément la première fois que vous avez entendu parler d'elle?
La première fois que j'ai entendu parler de Chava, j'étais tout petit, j'avais 7 ans. Mon grand-père, il était toujours à sa recherche. Et un jour, pendant la fête de Sukkot en Israël, il a voulu m'emmener dans le nord du pays. Nous habitions à Tel Aviv. Je ne savais pas pourquoi on allait là-bas avec mon père et mon grand-père. J'étais très jeune. Mon père m'a juste dit, on part en voyage. En fait, mon grand-père voulait se rendre à la maison des combattants du ghetto pour y déposer une photo de Chava, quelques lettres et poser quelques questions à son sujet. Parce que ce musée, il avait été fondé par des personnes qui venaient de Varsovie et de Mlawa, sa ville d'origine. Et il connaissait certains d'entre eux. Donc il voulait absolument se rendre là-bas pour leur poser des questions et leur donner une photo de sa sœur, celle où elle porte un béret, cette fameuse photo prise à Paris. En sortant, il était bouleversé parce qu'il n'avait aucune information. Ils n'ont pas pu l'aider du tout. C'était en octobre 1972.
Avant de rencontrer Eran, le petit-neveu, je fais quelques recherches sur la Pologne d'avant la guerre et sur Mlawa, la ville qui a vu naître Chava en 1891. Mlawa se situe au centre-est de la Pologne, à une centaine de kilomètres de Varsovie, dans la zone de résidence juive imposée par la Russie tsariste, où les lois anti-juives sont extrêmement virulentes. Je cherche et grappille des informations en ligne et dans des livres d'Annette Vivorka, de Jonathan Nedkatz, de Henri Mingzeles et d'Ivan Jablonka. À Mlawa, au début du XXe siècle, il y a environ 15 000 habitants. La population juive représente près de la moitié d'entre eux. En 1797, il est établi pour la première fois un ghetto. Au cours de la Seconde Guerre mondiale, la communauté juive de la ville est enfermée dans le ghetto et elle est décimée. Je lis encore. Principal foyer de la culture ashkénaze depuis le XVIe siècle, la Pologne a longtemps constitué une terre d'accueil pour les Juifs d'Europe. Seuls 13% des plus de 3 millions de Juifs polonais ont survécu à la Shoah. Fin XIXe, un rapport de la commission de la zone de résidence juive indique que 90% de la population juive peut être assimilée à un prolétariat ou un sous-prolétariat. La première vague d'émigration vers les États-Unis commence en 1881. Le 25 mai 1912, Chava Zlotchever embarque à bord du Vaderland, depuis Anvers en Belgique, pour New York City. Son billet coûte environ 52 dollars. C'est beaucoup.
Quand j'ai eu 16-17 ans, mon grand-père est tombé gravement malade, il était sur le point de mourir. Un jour, il m'a dit « Retrouve Chava, fais-le pour moi. Je suis sûr qu'elle est vivante, je ne sais pas où. »
Il pensait qu'elle était en vie.
Il disait à tout le monde qu'il pensait qu'elle était vivante, qu'elle était peut-être allée se réfugier en Espagne ou à Moscou, en Russie. Et curieusement, dans le témoignage qu'il a soumis à l'Institut Yad Vashem, il est écrit qu'elle était morte à Biarritz, lors d'un bombardement dans les années 1940. Mais ce n'est pas vrai. On sait que ce n'est pas vrai. Mon père, moi et d'autres membres encore de la famille, on essayait de lui parler. Et lui disait toujours, non, elle est vivante, vous devez la retrouver. J'ai repris seulement mes recherches en 2004, par hasard. C'était la période où Yad Vashem commençait à publier toutes ses archives en ligne. C'est là que j'ai retrouvé le témoignage de mon grand-père à propos de Chava. Mais je suis également tombé sur un passage important d'un livre de Serge Klarsfeld, et c'est comme ça que j'ai appris que Chava avait été déporté de Drancy à Auschwitz en décembre 1943 par le convoi numéro 63. J'étais sous le choc, j'avais du mal à y croire. J'ai imprimé le passage, j'ai vérifié tous les détails, et si c'était le nom, le lieu de naissance était Mlawa, c'était la date de naissance, tout était juste. C'était définitif, il n'y avait plus aucun doute.
Je me rends compte que je l'appelle souvent Chava slash Eva.
Livia Parnes, historienne.
Je suis de langue maternelle de l'hébreu, donc c'est facile pour moi de dire Chava. C'est un prénom très courant en Israël. J'aime aussi la sonorité de Chet et de Vav. Peut-être aussi parce que ce sont les deux prénoms qui figurent sur sa fiche de Drancy et qui témoignent donc de sa trajectoire de vie. Il renvoie aux extrémités de sa vie, point de départ, point d'arrivée. Hélas, arrivée qui sera brusquement brisée par la déportation. Je pense que c'était en 2019, je travaillais au mémorial de la Shoah, que je rencontrais par ailleurs Suzette Robinchon. Là, c'était via des cercles, des collectifs féministes et lesbiennes. Et donc, Suzette m'en a parlé de l'histoire des Chava, Eva. Travaillant au mémorial de la Shoah, immédiatement, je suis allée voir sur le mur de noms. Je découvre donc son nom. Je suis allée dans les archives et je rencontre les terribles documents, fiches de Drancy, les cahiers aussi, des mutations. Ça veut dire qu'on sait exactement dans quel baraquement elle était dans les camps. C'est donc, en fait, par la déportation et par la faim que j'ai commencé à remonter les fils de sa vie. Mais rapidement, j'étais saisie de voir à quel point derrière juste un nom d'une personne juive étrangère, et hélas, il y en a 75% de ces noms de juifs étrangers sur le mur, se trouve souvent une vie vraiment extraordinaire et singulière qui se déploie.
Alors, là, vous voyez, il y a plusieurs dossiers consacrés, donc, entre autres, à des femmes lesbiennes qui ont été déportées. Et il y en a un en particulier pour Eva Kotchever, qui, elle, n'a pas été déportée pour lesbianisme, mais qui a été déportée parce qu'elle était juive. Mais si elle a été arrêtée, si elle se trouvait à Nice à ce moment-là, c'est bien parce qu'elle avait été expulsée des États-Unis en raison de son lesbianisme. Alors, tu veux que j'ouvre le dossier, c'est ça? Alors ça, c'est un des premiers dossiers que j'ai constitué, que j'ai essayé de ranger, qui s'ouvre effectivement avec la photo de Eva, qu'elle a envoyé en 1941 à Ben Reitman. Il faut savoir que quand elle arrive aux États-Unis, elle va se lier rapidement au cercle anarchiste d'Emma Goldman. Et elle va d'ailleurs, pour gagner sa vie, aussi vendre le Liberator un peu partout dans les États-Unis.
Un journal
anarchiste parmi d'autres. Et d'ailleurs, c'est passionnant cette histoire. Et elle va se lier d'amitié avec Ben Reitman, qui lui aussi est né d'une famille juive russe, etc. Enfin, qui va être médecin, qui favorise également l'avortement, etc. C'est donc qui est très important pour elle au niveau affectif. Ce qui fait que si nous avons des renseignements plus précis sur le parcours d'Eve, c'est aussi grâce aux lettres qu'elle a écrites à Ben Reitman au fur et à mesure, en particulier après son expulsion des États-Unis, et qui ont été retrouvées dans les archives de Ben Reitman.
Donc elle est expulsée en 1927 des États-Unis.
Mm-hmm. Et elle lui envoie cette photo, et elle explique qu'elle est en bonne santé, qu'elle parle plusieurs langues, etc., et qu'elle voudrait vraiment retourner aux États-Unis. Et elle le supplie effectivement de faire les démarches nécessaires pour avoir le visa. Cette photo, elle m'a parlé directement. C'est pas une photo d'une femme banale dans la rue de 1941. Le petit foulard cravate, le type de col ou autre, je trouve qu'elle signe typiquement la modernité d'Eva Kotchever. Son regard m'interpelle. Moi, je me suis sentie concernée par qu'est-ce que je peux faire pour faire connaître cette histoire d'Eva Kotchever.
Comme Suzette, je cherche à combler les trous Et de mon côté, je pars à la recherche de la Eva Kotchever, ou plutôt Eve Adams, proche des cercles anarchistes aux États-Unis. C'est elle qui m'interpelle. Eve qui aurait travaillé à Mother Earth, le journal en langue anglaise fondé en 1906 par l'anarcha-féministe Emma Goldman.
Allô ?
L'historienne Alice Béja connaît très bien Emma Goldman et le mouvement anarchiste états-unien.
Oui, bonjour.
Alors je lui écris, bon, je lui dis ce que je sais sur Eve, et on s'appelle.
Sur Eva Kotchever.
Merci, du coup ça m'a permis de voir qui c'était, je ne la connaissais pas, ça a l'air complètement fascinant.
Dans l'enquête de Jonathan Nedcat sur Eve Adams, je découvre un fait qui m'étonne. Nels Anderson, dans son ouvrage de référence sur les hobos, publié au début des années 20, mentionne Eva Kotchever et la qualifie d'oboette, vagabonde. Ça tombe bien, Alice Béja a également travaillé sur le mouvement hobo.
Ce qu'on appelle au début du tournant du XXe siècle la hobohème, c'est toute une communauté qui est caractérisée par des quartiers, donc la Bowery à New York par exemple, où les hobos se retrouvent, parfois dans des pensions, hein, parce qu'on pense à hobo égale sans-abri, mais en fait c'est souvent aussi des travailleurs itinérants, donc des lieux, des journaux aussi, il y a le Hobo News qui circule. Des personnalités comme Reitman, qui devient le médecin des hobos, puisque lui-même était vagabond et ensuite a réussi à faire des études de médecine, et parfois des engagements artistiques et politiques forts, notamment au sein du syndicat Industrial Workers of the World, IWW, qui est anarcho-syndicaliste, et qui, contrairement aux autres syndicats, accueille les chômeurs et les travailleurs migrants.
Et justement, donc, Eva Kotchever, ce qu'on peut imaginer, donc, si elle se dit oboète, ce qu'elle marque par là avec ce terme, c'est à la fois un mode de vie itinérant, et elle marque une appartenance idéologique, politique.
Ouais, et il y a aussi effectivement on voit déjà même un peu dans le terme une forme de romantisation hein, de cette figure-là, avec une idée de marginalité qui était la plupart du temps subie, hein, mais qui pouvait aussi, dans certains cas, être choisie. Et quand même si bon, il serait complètement faux de dire que tous les hobos étaient anarchistes, mais en tout cas une forme d'affinité avec certaines idées anarchistes en lien aussi, et ça je pense que, étant donné qu'elle a beaucoup fréquenté Mother Earth et qu'elle était également immigrée, l'idée des familles et des communautés choisies. Et ça c'est quelque chose qui est très important dans les cercles anarchistes. Hein. Emma Goldman, elle appelle les gens qui gravitent et les proches de la revue, c'est la famille Mother Earth. Dans un contexte aussi où les anarchistes sont sans cesse harcelés par la police, c'est aussi un geste politique de dire voilà, la famille traditionnelle, entre guillemets, étant un lieu d'oppression, nous on fait le choix de construire nos propres relations en accord avec nos idées.
This is the photo from 1925.
C'est une photo de 1925.
This is my grandfather.
À Mlawa en Pologne.
This is Hava, and this is their sister.
Là c'est mon grand-père, là c'est Hava et là c'est leur sœur. Elle est enceinte.
Could you name all of them?
Yeah, Tova, Hava and Yerachmiel.
J'aime beaucoup cette photo de Hava.
Well, she is coming from New York.
Elle vient de New York.
This is a visit from New York.
Elle vient de New York. Elle est de passage pour trois mois pour voir sa famille.
Well, you can see quite obviously that the
Comme vous pouvez le voir, Tova porte une tenue très traditionnelle, avec une coiffe même.
My grandfather is 15 years old here.
Mon grand-père a 15 ans sur cette photo.
Old classic orthodox Jews.
Il est habillé comme un juif orthodoxe classique, même s'il ne porte pas le chapeau de fourrure.
Chava, with a pants and a white shoes.
Chava, elle porte un pantalon et des chaussures blanches. Ce genre de costume, pas de chapeau, les cheveux au vent.
Someone from a different planet.
On dirait qu'elle vient d'une autre planète.
Fiche de renseignement issue de plusieurs archives du ministère de la Justice des États-Unis, éditée entre 1919 et 1921.
Âge, 30 ans, Eve Adams.
Taille,
a les cheveux rouges, courts et crépus.
Poids,
s'habille de manière virile et sale.
Adams,
c'est
Eve,
une dangereuse radicale, alias Eva Zlotchever.
Type juif,
cheveux coupés courts, châtain.
Activité radicale,
teint,
matricule
202-600-965. Pas attirante, porte des lunettes.
She
Eve a été espionnée par le Bureau of Investigation, l'ancêtre du FBI. Le FBI l'a confrontée sur ses positions politiques à plusieurs reprises. Lui a demandé les livres qu'elle lisait, par exemple. Elle a fini par en avoir marre et a refusé tout contact avec eux. À l'époque, dans les années 20, elle sillonne le pays pour vendre des abonnements à des journaux de gauche. C'est pour ça que le FBI l'a surveillée.
L'historien Jonathan Nedcats a consacré une biographie très documentée à Eva Kotchever, The Daring Life and Dangerous Times of Eve Adams, publiée en 2021 aux éditions Chicago Review Press.
De nombreux agents du FBI commentaient le fait qu'elle s'habillait comme un homme, qu'elle avait des cheveux étranges, gras, négligés et rouges, sa démarche virile. Les mots utilisés servaient souvent à désigner les juifs et les immigrés de toutes sortes, du style « ces sales immigrés ». C'était une expression commune.
J'ai du mal à me représenter comment, à ce moment-là, cette jeune femme qui débarque aux États-Unis peut rencontrer Emma Goldman. Elle était accessible, Emma Goldman.
Oui, non, mais sans du tout préjugé, parce que je ne connais rien à la biographie de cette personne. Mais il y a quand même des réseaux. Enfin, on peut quand même émettre un certain nombre d'hypothèses. Ça dépend aussi beaucoup de si ses idées politiques étaient déjà formées avant. Si elle s'intéressait déjà, par exemple, à l'anarchisme avant son émigration, on peut quand même tout à fait imaginer qu'elle l'ait potentiellement déjà établi des liens ou été en contact avec des publications anarchistes, sachant que quand même 1912, bon, dans le milieu anarchiste, Emma Goldman, y compris le milieu anarchiste international, c'est quand même une figure connue. Donc il y a ces réseaux affinitaires politiques. Après, il y a évidemment la question de la communauté juive à New York. Certes, la communauté juive est très très importante. New York, c'est la première ville juive du monde dans les années 1910. Donc je crois qu'il y a, si ma mémoire est bonne, autour d'un million de juifs et juives à New York en 1920. Donc c'est vraiment une très très grosse communauté. Mais concentrée globalement dans quelques quartiers. Et les anarchistes qui sont certes très peu nombreux, mais néanmoins, c'est un courant qui est surtout présent dans la communauté russo-juive, et là je dis russe au sens de l'Empire russe, très largement, et dans la communauté italienne. Et donc dans ces deux communautés, là aussi, il y a moyen qu'on entende parler ou qu'on voit des affiches dans la rue qui annoncent un discours d'Emma Goldman, ou voilà, ce genre de choses.
C'est en effet ainsi qu'Eva aurait rencontré Emma Goldman lors d'un discours public. Eva aurait été subjuguée par son courage.
Vous, hommes et femmes qui êtes ici présents, ne vous rendez-vous pas compte que l'État est votre pire ennemi ?
Emma Goldman, 1er mai 1893, Union Square, New York.
C'est une machine qui vous écrase pour maintenir en place la classe dirigeante, celle de vos maîtres. Comme des enfants naïfs, vous vous fiez à vos dirigeants politiques. Vous leur accordez votre confiance et ils vous trahissent à la première occasion venue. Même là où il n'y a pas de trahison directe, les politiciens travaillistes font cause commune avec vos ennemis, pour vous tenir en laisse, pour vous empêcher d'agir directement. L'État est le pilier du capitalisme, et il est ridicule d'en attendre quelques secours. Ne voyez-vous pas la bêtise d'attendre de l'aide du lointain pouvoir, alors qu'une immense richesse se trouve à deux pas d'ici ? La 5e avenue est pavée d'or, chaque hôtel particulier est une citadelle d'argent et de pouvoir. Pourtant, vous vous tenez là comme un géant affamé et enchaîné, privé de sa force. Allez manifester devant les maisons des riches, exigez du travail. S'ils ne vous en donnent pas, demandez du pain. S'ils vous refusent les deux, prenez le pain. C'est votre droit le plus sacré.
Elle rejoint des cercles qui peuvent en faire immédiatement une ennemie de l'État. Enfin, c'est osé.
Ah oui, tout à fait. Ah oui, non, ça c'est sûr que c'était pas la situation la plus confortable. Déjà, femme, jeune, immigrée, plus anarchiste, ça fait effectivement...
Juive, ouais, aussi. Lesbienne. Voilà,
c'est beaucoup, mais en même temps, c'est aussi là qu'on trouve des formes de communauté, des formes de solidarité, qui et bon, évidemment, si c'est en accord avec ses idées politiques, qui font qu'elle peut aussi se sentir... soutenus, accompagnés, parce que dans l'adversité, ils construisent aussi des liens forts. Mais oui, le mouvement anarchiste est très fortement criminalisé. Ces années, disons 1916-1919, sont des années de très forte répression qui vont très largement décimer le mouvement.
Ben, merci beaucoup, merci d'avoir pris ce temps.
Ben, bon courage alors pour la leçon.
Juin 1926, The Quill, Chronique de Greenwich Village par Robert Edwards.
129 MacDougall Street. Le rendez-vous d'Ève, où les dames préfèrent être entre elles. Pas très simple pour les vraies jeunes filles, ni confortable pour les vrais hommes.
Je suis déjà allé au 129 MacDougall Street à plusieurs reprises. On peut descendre au sous-sol où se trouvait le salon de thé d'Ève. J'imagine l'atmosphère de l'époque, des débats qui fusaient sur la politique, le sexe, les pièces de théâtre, les films même, dans les années 20. J'imagine un lieu bruyant et probablement très enfumé, un lieu plein de vie.
Elle est une personnalité du village. Ça veut dire que non seulement elle a ce salon de thé, mais ça veut dire aussi que certainement elle y est très présente, qu'elle est chaleureuse, qu'elle accueille, je ne sais pas moi, qu'elle connaît du monde, qu'elle est connue pour ses positions. Peut-être qu'elle, à mon avis, je l'imagine parlant ouvertement de ce qu'elle pense, de ce qu'elle ressent ou autre.
Qui était-elle ? C'était une résistante. Elle était pleine de vie. Elle était agente de sa propre vie. Elle émigre aux États-Unis, se rapproche des anarchistes, de la gauche radicale en général, et elle passe du bon temps. Elle adore l'Amérique, mais elle veut en corriger les défauts. Elle est punie pour avoir voulu faire de l'Amérique un endroit plus vivable pour les juifs, les pauvres, les ouvriers, les lesbiennes.
Way down south in Greenwich Village, there's the field for
the myth of Eve Adams began in
le mythe d'Eve Adams commence de son vivant. Elle est décrite comme cette super vendeuse de journaux de gauche, une héroïne. Et elle devient célèbre avec son salon de thé, le rendez-vous d'Eve, à Greenwich Village. Un havre pour les homosexuels, les bohèmes de toutes sortes. Son salon est très populaire et elle devient très populaire. Tout allait bien pour elle, jusqu'à ce que cette policière infiltrée lui tende un piège. Margaret Leanout.
Way down south in Greenwich Village, there the spinsters come for thrillage. There they talk of sex relations with the sordid Slavic nations. Neath the guise of feminism, dodging social.
À la recherche d'Eva Côte-Chevert, première partie.
In Washington Square.
Merci à Suzette Robichon, Livia Parnes, Eran Zahavi, Alice Béja, Jonathan Netkatz, ainsi qu'à Maria Chomar. Lecture, Anne Stephens et Marc Bertin. Traduction, Blandine Fourchet. Voix française, Antoine Beauchamp et Marceau Vassy. Prise de son, Lucien Lefebvre, Noé Chaban, Jean-Benoît Tétu et Valérie Lavalard. Mixage, Bruno Mourlan. Coordination, Emmanuel Laurentin. Chargée de programme, Sandrine Chaperon. Un documentaire de Clémence Alzard, réalisé par Anne Fleury.
There the ladies do the courting, the ladies buy the eats in Washington Square. Way down south in Greenwich Village comes a bunch of uptown swillage Folks from Lenox subway stations come with lurid expectations. There the village informalities are construed as abnormalities by the boobs who visit Sheridan Square.